la chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
C'est la chronique « Je lire » sur Jet FM. Aujourd'hui, je lire plusieurs livres. Alors une fois n'est pas coutume, je vais parler de livres qui m'ont plutôt déçu dans un premier temps, pour arriver à un livre qui m'a plutôt enthousiasmé à la fin de cette chronique. Tout d'abord, des livres que j'avais demandé aux éditions Dupuis parce que le sujet m'intéressait et puis je me disais, tiens, pourquoi pas une grande saga, une histoire assez classique de bande dessinée. Je ne m'attendais pas forcément à une révolution expérimentale, que ce soit graphiquement ou dans le scénario, mais plutôt justement une bande dessinée de facture plus classique et qui raconte des petites histoires dans la grande histoire. Précisément, deux bandes dessinées scénarisées par Denis Lapierre. L'une, c'est une réédition, l'autre, j'y viens tout de suite, c'est une nouveauté qui utilise, se situe, on va dire, a comme toile de fond, la guerre d'Espagne, c'est-à-dire l'affrontement entre les fractions dites révolutionnaires et le fascisme de Franco, qui va s'installer durablement au pouvoir en Espagne à partir de 1936. Mais cette guerre a été très violente, a occasionné de nombreux déplacements de population, évidemment beaucoup de morts, beaucoup de répression, au sein notamment de la fameuse colonne d'Urruti, de l'anarcho-syndicaliste Buenaventura Durruti. Cette histoire m'intéresse beaucoup à plein d'égards et elle a donné lieu à beaucoup de livres, de films, de musique même, qui ont été inspirés par cet élan révolutionnaire, sans forcément pousser trop loin le romantisme. Il y a eu dans les brigades internationales énormément de gens et d'intellectuels qui se sont impliqués pour essayer de lutter contre Franco. Peine perdue donc, Franco restera au pouvoir jusqu'en 1975 et pas du tout inquiété à la suite de la Seconde Guerre mondiale par les différents tribunaux qui pourtant jugeaient les dictateurs pour leurs actions ou leurs inactions pendant la Seconde Guerre mondiale. Bref, ça c'est l'histoire schématisée là très rapidement, globale. Et alors, comment on fait rentrer une petite histoire dans cette grande histoire? Eh bien c'est ce que Denis Lapierre a réalisé sur deux ouvrages. Le plus récent s'intitule « Barcelona, âme noire ». Alors, il a été co-scénarisé par Denis Lapierre et Gianni Jacupi. Et il a été co-dessiné par trois dessinateurs, Martin Pardo, Ruben Pereiro et Edward Torrens. On trouvera ce dernier juste après dans un autre ouvrage. Et donc, cet ensemble de gens, dans une veine plutôt classique de bande dessinée, me laissait penser que ça allait donner un souffle, une saga historique, ce qui est la tentative, ce qui est l'intention, mais de mon point de vue, ça rate à plusieurs endroits. On commence avec un jeune orphelin de cette guerre d'Espagne, Carlitos, qui va être pris en charge, protégé par un riche ami de la famille, et qui va glisser doucement vers des petites exactions avant de devenir une sorte de grand mafieux, finalement, organisant des trafics de denrées à une époque de récession entre la France et l'Espagne, plus exactement la Catalogne, puisqu'il est à Barcelone. Et au fur et à mesure, c'est un peu une ascension, presque comme Le Parrain, si vous avez vu ce très beau film de Francis Ford Coppola, sauf que ça n'a pas finalement le souffle de son ambition et qu'il y a même, de mon point de vue, à plusieurs égards, des mélanges de styles sur les trois dessinateurs qui finissent par se confondre, certes, mais qui donnent aussi certaines faiblesses, puisqu'il y a des endroits où finalement les proportions, tout est dessiné de manière plutôt réaliste, où les perspectives manquent un peu de puissance. Et puis, dans le scénario, il y a quelques grosses ficelles qui me semblent un peu étonnantes. Donc, j'étais parti plutôt enthousiaste dans ce récit qui démarre plutôt bien. Et puis, je me suis lassé au fur et à mesure. La guerre d'Espagne, la toile de fond, n'est finalement qu'un prétexte. On va pourtant traverser un certain nombre de décennies jusqu'à la mort de Franco. Bref, je laisse de côté ce Barcelona âme noire, de mon point de vue, peut-être trop ambitieux ou peut-être trop classique à certains endroits ou avec peut-être trop de ficelles un peu gênantes, notamment dans la représentation des femmes et de leur fausse puissance, souvent très soumise. Et c'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans un livre qui est réédité aux mêmes éditions Dupuis, donc dans la collection Air Libre. Je n'ai pas dit que Barcelona âme noire est donc publié dans la collection Air Libre aux éditions Dupuis, fait 148 pages et vient juste d'être publié pour 27,95 €. Et donc, dans le même temps, est republié en un seul volume, en intégrale, quelque chose qui avait été publié en 2013 en deux volumes, c'est Le Convoi, du même Denis Lapierre au scénario et du même Edward Torrens au dessin. Il s'agit là d'une histoire de 136 pages, tout en couleur, pour 27,95 €, même collection Air Libre chez Dupuis. Le Convoi, c'est presque un peu après, à l'endroit où s'arrête Barcelona âme noire, 1975, mort de Franco, eh bien c'est un peu le début de l'histoire du convoi. On est à Montpellier en 1975 et Angelita, qui est fille de réfugiés espagnols et qui a une vie un peu morne et qui cherche peut-être d'ailleurs un peu de piment dans sa vie, eh bien elle va se retrouver finalement mêlée à son histoire familiale qu'elle connaissait que très peu. En tout cas, il y a des zones d'ombre qu'on ne lui avait pas révélées et qui vont apparaître par le destin de sa mère, qui vient de se faire hospitaliser à Barcelone alors qu'elle était censée être en France. Voilà comment commence ce récit qui va détricoter l'histoire familiale, c'est-à-dire ce qui s'est passé justement durant la Seconde Guerre mondiale, au moment où les réfugiés de cette guerre d'Espagne qui fuient Franco, eh bien, vont passer en France et arriver en France en 1939 et très rapidement être parqués, stockés dans le camp d'Argelès par exemple, puis ensuite à Angoulême, qui va très rapidement devenir zone occupée par les Allemands, et de là, un certain nombre de personnes et d'hommes vont être déportés vers Mauthausen. Les femmes et les enfants vont être renvoyés chez Franco. On voit donc dans ce livre tout le cynisme et toute l'horreur que l'administration française a pu faire subir à ces gens déjà réfugiés et traumatisés. L'histoire est puissante, mais là encore, la petite histoire qui se glisse dedans finit par lasser un peu, avec finalement derrière ça des drames toujours intimes, mais relativement clichés, on pourrait dire. Encore une fois, le livre commence plutôt bien et puis s'empêtre un peu dans ces histoires d'amour qui intéressent assez peu. En tout cas, moi, ça m'a intéressé assez peu. Le convoi, donc, de Denis Lapierre et Edward Torrance. Je continue vers des livres qui m'ont un peu déçu. Là, on passe aux éditions Delcourt dans la collection Ancrage. J'étais assez curieux de lire un récit de Tohar Sherman Friedman, qui est une autrice de bande dessinée, qui a réalisé une sorte de journal, Chronique de Tel Aviv. C'est le sous-titre de Mon âme vagabonde. Ce livre fait 152 pages, tout en couleur, et coûte 19,99 €. Il vient de paraître en mars. Et ce sont des réflexions sur sa place en tant que femme dans le monde contemporain au XXIe siècle. C'est plutôt bien dessiné, assez réaliste, avec quand même des tentations qui vont chercher du côté de la bande dessinée peut-être américaine, indé-américaine, presque en exagérant, chez les frères Hernandez, mais pas vraiment. Avec un récit qui, finalement, de mon point de vue encore, s'enlise un peu, c'est assez anecdotique, et peut-être parce que ce sont des chroniques de Tel Aviv, j'attendais quelque chose de plus directement impliqué, sans parler de politique directement, ni même d'une forme d'exotisme, mais de comprendre ce qui faisait la spécificité d'une vie à Tel Aviv. Et c'est pas exactement ce que j'ai réussi à trouver dans ce livre, même si c'est évidemment présent. J'ai fini par me lasser de ces nombreuses pages et j'ai eu l'impression que quelque chose ne se passait pas, alors que justement les questions existentielles traversent l'autrice et ça aurait pu donner une forme intime assez puissante d'introspection et de vagabondage dans les rues de Tel Aviv. Je suis resté à côté. Tohar Sherman Friedman, Mon âme vagabonde, chronique de Tel Aviv, chez Delcourt. Un autre livre de chez Delcourt dans la collection Patakès, qui est une collection d'humour, L'énorme enquête de Laurent Oiseau et Yann Rambaud. Le premier est scénariste, le second dessinateur, et les deux ont probablement, si ce n'est bien regardé Fab Caro, en tout cas au moins biberonné les mêmes références à plein d'endroits, puisque clairement, quand on ouvre le livre, on est dans cette forme d'humour, de décalage et même de dessin un peu réaliste, un peu photographique, qui permet le décalage et les répétitions. Évidemment, ça n'est pas du Fab Caro, et d'ailleurs à ce titre, c'est moins surprenant et moins drôle à plein de moments, même s'il y a quand même quelques situations, quelques moments plutôt amusants. Ça se lit très bien comme une bande dessinée assez distrayante, avec pas forcément un enjeu très fou. L'énorme enquête, c'est une enquête de police, une mort improbable, quelque chose de très suspect, et des inspecteurs qui sont complètement branqués à côté de la plaque, qui sont représentés un peu comme Dustin Hoffman et Robert Redford dans Les Hommes du Président, mais pas complètement. Donc il y a aussi ce décalage qui fait sens avec, si vous l'avez vu, la fameuse classe américaine, ce grand détournement de film qui avait été réalisé dans les années 90. Et ça amène cette dimension-là aussi. Plein de situations sont plutôt amusantes graphiquement. Les dialogues aussi font mouche, mais ça reste un peu en dessous, c'est-à-dire qu'on attend, moi j'attends en tout cas, des auteurs probablement un peu plus que cette bonne parodie, mais qui encore une fois va peut-être trop marcher sur les plates-bandes de Fab Caro. Ça s'intitule « L'énorme enquête », ça fait 64 pages et ça coûte 13,50€ dans la collection Patakès chez Delcourt. J'arrive enfin au livre qui m'a le plus emballé de cette série et de toutes ses sorties récentes. Chez un gros éditeur toujours, c'est chez Dupuis. On revient à la collection Air Libre. 26€, 224 pages, toutes en couleur, sorties à la fin du mois de mars. C'est Filiation, tome 1 de Gwen de Bonneval. Gwen de Bonneval qui est un auteur qui réside de tout près d'ici, à Saint-Florent-le-Vielle, et qui travaille à ce livre depuis pas mal d'années. C'est même une histoire de longue bouche, on pourrait dire, puisqu'en 2015, Gwen de Bonneval, comme pas mal de gens, se prend de plein fouet la question de l'effondrement de l'écocide en cours et de la dite collapsologie en lisant le livre « Comment tout peut s'effondrer » de Pablo Servigne et Raphaël Stevens. Il était déjà, comme beaucoup, assez sensible aux questions environnementales, au devenir humain, à la part animale, mais là, il se prend de plein fouet des données, des précisions qui montrent à quel point les choses vont mal. Il est donc, dans le petit milieu de la bande dessinée, l'un des premiers à donner pas mal d'alertes, à donner des infos, à essayer de renseigner, à partager au maximum ce que lui vit de manière intime, politique et sociale. Il va aussi s'intéresser de plus près à la permaculture, faire quelques stages. Et tout cela nourrit aussi ses réflexions sur la création. Pourquoi, comment faire encore des bandes dessinées, des livres de fiction, des récits plus ou moins intimes qui ne diraient pas cette inquiétude du monde? Pendant longtemps donc, il mâche et remâche cette question-là, il la partage, et d'autres que lui, autrices et auteurs, qui souvent sont amis, vont s'emparer du sujet peut-être plus vite que lui, en tout cas publier plus rapidement des livres sur la question. Et ce n'est pas plus mal, car de son point de vue, et puis pour avoir pas mal discuté avec lui, ça lui a permis de maturer, de chercher comment rendre intelligibles ces questions-là assez anxiogènes et en faire un récit. Et la question a été de remonter son propre rapport à la vie, à l'être, donc son histoire familiale et aussi l'hypersensibilité qui le caractérise depuis l'enfance. Alors donc, voici un récit qui sera en deux tomes, c'est un diptyque, qui rassemble à la fois ces questions écologiques, environnementales, sociétales, politiques et donc intimes, une histoire familiale tout à fait particulière, une histoire personnelle de sa petite enfance, de la séparation de ses parents, des rapports complexes qu'il entretient avec son père et sa mère, et une histoire familiale plus vaste encore avec un grand-père qui fut aide de camp de Charles de Gaulle et qui est plutôt taiseux, qui ne dit pas grand-chose de ce moment particulier qu'il a vécu auprès du général de Gaulle avec toutes ces histoires de représentation, de politique française, de politique internationale. Et puis une filiation qui va aussi vers le fils de Gwen de Bonneval, Philémon, qui est représenté dans le livre et qui rejoue quelque part une hypersensibilité que le père auteur a. Donc, on est dans cette triple, quadruple possibilité de narration qui s'entremêle de manière assez fluide. Et Gwen, avec son dessin, qu'il a été re-questionné, cherché à d'autres endroits avec un trait un peu plus épais, un rien charbonneux, et c'est assez volontaire. Des couleurs aussi qu'il utilise de manière plutôt précise et assez saillante. Eh bien, on va entrer au fur et à mesure dans ce qui constitue un auteur sensible et ce qui le traverse, et à travers lui, une forme d'universalité. On attend déjà avec une certaine impatience la suite de ce récit parce que beaucoup d'éléments ne sont pas résolus, si jamais résolution il y a, dans ce premier tome. Mais en tout cas, on a cette mosaïque qui s'est installée et ce passage de tous les états et de toutes les temporalités qui fonctionne plutôt bien. Il a mis quelques années à travailler tout cela, Gwen de Bonneval, qui est aussi très connu pour son travail de scénario auprès d'autres dessinateurs et son travail de dessin avec d'autres scénaristes. C'était là donc un enjeu de revenir à un travail seul, solitaire presque, mais nécessaire probablement à plein d'endroits. Je conseille donc fortement Filiation, tome 1 de Gwen de Bonneval, publié aux éditions Dupuis dans la collection Air Libre, et on en reparlera sur cette antenne puisque j'aurai le plaisir d'enregistrer une conversation avec Gwen de Bonneval très bientôt.
Nos pères ont pris sur eux après notre arrivée. Même s'ils s'en défendaient, même s'ils acceptaient, ils nous ont vus finir à leur place le repas. Certains ont su en rire, d'autres n'y arrivaient pas. Nos pères nous en voulaient, même ceux qui ne voulaient pas. Nous rendre responsables, et même ceux qui pensaient. Après coup qu'ils avaient longtemps voulu qu'on soit. Un jour à cette table, à finir le repas. Leurs femmes nous trimbalaient, nous crochetaient le bras, clignant des yeux d'amour pour qu'on ne les oublie pas. Comme si c'était possible d'oublier ces yeux-là, ces lèvres au bord du vide qui s'écrasaient sur nous, ces lèvres que nos pères n'atteignaient que de loin. Depuis qu'on était là, depuis qu'on faisait tout pour leur prendre une à une les choses de la main. Avec cet alibi de n'y rien voir du tout. Nos pères n'ont jamais su nous détester vraiment. Attachés par amour à tout nous pardonner. Et même quand c'était trop, qu'on était trop présent, ils ne luttaient pas trop avant de s'effacer. Et à temps s'effacer, nos pères ont disparu. Et quand on a compris, on a regardé la terre qui ne recracherait rien. On a regardé nos mères qu'on n'avait jamais vues, si éloignés de nous. On les a regardés, peinant à évoquer ces hommes tels qu'ils étaient avant notre arrivée. Avant qu'ils ne s'assoient pour mieux nous reconnaître, pour bien nous regarder avant de disparaître.